Hey, yo, this is the narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Dude, this is Flavor Flavor, Public Enemy, and you're listening to CKUT and the place to be from the bottom to the TOP.
Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassin here with you for the next half hour on today's show. The Offord Express, a train that used to be a moving restaurant and the star and studio of a TV show, but the Scenic Tourist train has been parked in Magog, Quebec since 2019. It's now on track for a comeback next year.
I drive in front of the train every day and I have four kids and, you know, my kids are like, hey, let's go on the train. That'd be so cool.
And I just said to myself, wow, this is such a beautiful piece of culture.
Internationally renowned singer, songwriter, and musician Alex Cuba will receive an honorary Doctor of Laws degree from the University of British Columbia.
It's an incredible recognition. I think it makes me smarter. No, I'm just kidding. It's from here that I have done my musical career, and it means a lot. To me, this is a big declaration of love.
Northwest BC prepares for another tough wildfire season.
Right now, we have probably, about 50% of our crews back, and we'll see them come back again in April, and then our last intake will be at the start of May.
The black-capped chickadee bird wins a vote en route to become Nelson's official city bird.
The pale sun peers with uncertainty through the stiff trees where the chickadees peek and chatter.
And we'll be taking a short stroll down the Lake Ontario beach, which is being made accessible for people with disabilities using mats and floating wheelchairs. Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Our first stop will be in the province of Quebec, where the Offord Express, a scenic tourist train parked in Magog since 2019, could be back in service by the spring of 2025. Nikolai Ray, co-owner of the Offord Express, credits the possible revival on extensive government support, including grants from provincial and federal levels and endorsements from municipalities. His project extends beyond borders and has received positive feedback from officials in neighboring U.S. states as well. Ray hopes that the new service will be more than a restaurant on rails. It could eventually become a sustainable transportation option as a passenger train. Derek Bullard in Sherbrooke, Quebec has more.
The Offord Express train could be back on track in spring 2025. We spoke to Nikolai Ray, a businessman, along with whom agricultural entrepreneur Michel Godreau has joined forces to spearhead this endeavor. They aim to revive this tourist train, which ceased operations in 2019. When asked about the challenges of restoring the Offord Express after its five-year hiatus, Nikolai Ray, a local resident and impact real estate developer, shared a personal connection to the train.
Well, essentially how it came to is that I live in Magog, so I drive in front of the train every day, and I have four kids, and, you know, my kids are like, hey, let's go on the train, that'd be so cool. So I started to look up into the, I started looking into the train, and I realized that it had shut down in 2020 due to COVID, and I just said to myself, wow, this is such a beautiful piece of culture, and I think so important for the Eastern Townships. And so I started looking into it even more about, you know, how we could maybe bring it back and ensure that it survives and that its legacy keeps on going on for the region, for everyone who lives in the region. And obviously, as being since I'm an impact real estate developer, I'm very in tune to green transportation, sustainable development.
When asked about the envisioned role of the Offord Express in regional tourism and economic development, Nikolai outlines a comprehensive plan. He emphasizes not only reinstating the train as a tourist attraction, but also expanding its services to withstand challenges and eventually transforming it into a full-fledged passenger train connecting Sherbrooke to Montreal, Boston, and Quebec City.
The idea would be to obviously bring back the Offord Express as a tourist train, as it used to be operated, expand its offerings so that it survives even tougher times, if you may, but also eventually get it up to becoming a full-fledged passenger train, kind of like with Via Rail, where you'd have full passenger service between Sherbrooke and Montreal, Sherbrooke and Boston, and maybe eventually Sherbrooke and Quebec City. which would obviously help to develop not only Sherbrooke, but all of the eastern townships, and actually even Montreal and Quebec City, as a lot of people from Boston and Northeast would probably come up to Quebec. As for the challenges, well, the challenges, number one, obviously, it's hard to get financing for a train, so you have to have equity or raise equity. And it's not the most profitable types of businesses until you get a certain scale. It's kind of like a hotel, but it's a hotel on rails, or it's a restaurant on rails in the way that it used to be operated. And obviously with COVID, well, we know how restaurants had trouble surviving. And imagine a restaurant where people are jam-packed so tight because you're in essentially rail cars. So I think that was the major problem with it. I think those are the challenges. Also, challenge-wise is, making sure that we have enough collaboration, not only with the rail owner-operators, which in our case is the CP between Saint-Jean-sur-Richelieu and Lac-Mégantic, and then eventually expanding our services, which could be through like the CN to come into Montreal, or the CP, which could come into Montreal as well. There are two different options. Amway, that goes out to the U.S., and the other different owners like Genesee Wyoming, who also owns some of the tracks that go down to the U.S. So it's just being able to negotiate and collaborate and cooperate with all these different parties who own the rails, and also the different levels of government, municipal, provincial, federal. We need their support, and we need the support of the population. And I think, you know, the major challenge is being able to just coordinate everyone in due time and kind of act as like a chef of the orchestra, essentially. We're not motivated by money. We don't see this as a money-making endeavor or a huge capitalistic endeavor. For us, this is a community project, a social project, a society project.
It's no small feat to bring this train back on track, and our guest discusses the intricate financing strategy, which involves a mix of equity investment, debt financing, and inviting community participation through crowdfunding platforms.
So the estimated costs essentially are $3 million to acquire all the assets of the Orford Express and the rights of passage and whatnot. We're talking about essentially get it back on its rails. We're talking about a $4 to $5 million project to get up to a passenger train. It's very difficult to give you any projections with regards to numbers, but obviously we're talking about an end project that would be the tens of millions. Obviously, we're going to need support from the three levels of government. We're going to need support also from the citizens and from business people from around, because, for a train to really work, you need everyone on board. And we're also looking at, we're speaking with a crowdfunding platform right now to explore the possibility of allowing essentially anyone who lives in the eastern townships or in Quebec or anywhere to also become an investor through crowdfunding platforms and crowdfunding regulations.
Our guest has emphasized that they envision the Orford Express not just as a restaurant on rails, but as a passenger train, emphasizing the societal benefits it could bring, not just locally, but on a provincial, national, and even international scale if it extends to the U.S.
Why the Orford Express closed? Well, I think that's what would protect it in the future through any black swan events, tougher years, recessions, whatnot. And, the Orford Express and eventually a passenger train. It's something that would benefit society immensely, at least in the eastern townships, and probably at a provincial and national level, and even obviously international if we cross over to the U.S. Both on a heritage, cultural, touristic side of things, but also on the sustainable development and economic development as well. Of the different regions.
Finally, we asked our guests just how much support is the project actually getting? And according to him, it sounds like the project has received substantial support from various levels of government, including municipal, provincial, and federal authorities.
So far, government support has been very good. Obviously, through the Association du Corridor Ferroviaire Estrie-Montérégie, the ACFEM, we've had support from all the municipalities and the mayors. So Sherbrooke, Magog, Beaumont, Farnham, Saint-Jean-sur-Richelieu. The provincial government has shown support as well. On the U.S. side of things, we met with state officials in New Hampshire, Vermont, Maine, and Massachusetts. Everyone's very excited by the project, and everyone, I believe, wants to definitely help and push it forward. And as I said earlier, it's just a matter of, I think, coordinating everyone and getting the timing right.
Special thanks to Nikolai Ray, co-owner of the Orford Express.
Hello, I'm Candace Vetter in Embrun, Ontario, and you're tuned into Viewpoints. Follow us on X at Frequency News. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Singer-songwriter and musician Alex Cuba is receiving an honorary Doctor of Laws degree from the University of British Columbia in recognition of his achievements in music next month. The award recognizes individuals who have achieved eminence and accomplishments in various fields and who have made notable contributions to humanity. This is the second honorary degree for Cuba, who will soon be releasing a new album called Voices of My Family, featuring family members from Cuba. Born in Artemisa, Cuba, he emigrated to Canada in 1999 and now resides in Smithers. In Terrace, BC, Sabrina Spencer caught up with Alex Cuba.
I just got a word that you are going to be receiving an honorary Doctor of Laws degree from UNBC.
Yes, that news went out today.
So can you tell me a bit about that and what this doctorate means for you?
It's an incredible recognition. I think it makes me smarter. No, I'm just kidding. Yeah, it means a lot to be recognized, you know, right here in my neck of the woods. I live in Smithers, BC. It has been my home for almost 21 years. And it's from here that I have done my musical career, traveling the world.
Yes, because you are known internationally as well, singing both Spanish and English.
Mm-hmm.
African influences, mix of funk, jazz, pop, and you also received a couple of Juno Awards.
Yes, it's been quite the career. I have received 4 Latin Grammys, 1 American Grammys 2 years ago in 2022. I won Best Latin Pop Album at the Grammy Awards, and the town of Smithers went crazy about it. That is a big painting, like a mural of me on downtown Smithers, that is the town through a party. You know, the list goes on. And that's why I'm saying that I'm so grateful to be recognized by my peers, by the people in the neck of, in my neck of the woods, which is, northern British Columbia. And it means a lot. To me, this is a big declaration of love, the way I see it. Canada is showing me a lot of love. And I don't know if you heard that almost 2 years ago, I received an honorary degree from Queen's University in Kingston, Ontario. So this is my second honorary degree, and I can't believe this is happening. Very grateful and honored.
And you were actually in Terrace back in January, as well as you went to Kitimat as well. So you've been touring around quite a bit.
Yeah, it was, and I'm about to leave on the longest tour of the year. I'm going to be away for a month in the United States. Yeah, always moving, that's the job, the work we do. It's, once you have the music ready, released, and all of that, you have to go meet folks and play for them, serenade them, let them know you're sick.
Oh, that is so great. Is there anything else you'd like to share with us at all today?
I like to say to everyone, or anyone that is listening, from northern British Columbia, whether you are in Prince George, in Burns Lake, Houston, Smithers, Terrace, Kitwanga, Prince Rupert, whether you are in any of those beautiful places that I know so well, this is a beautiful, beautiful part of the world, and it is important to me to continue to elevate the importance of culture, in art, because, yeah, we are small, but we are mighty. We have soul, we have community, and art plays a beautiful role into strengthen, you know, the community, making it stronger. And I am very proud to be living in Northern British Columbia. Something that I'm very passionate about, a project coming out on May 31st, an album that I recorded in a very interesting way, and I call Voices of My Family, is coming out. It's a project where I find myself singing with family members from Cuba, and it started in the middle of the pandemic, and now it's just a dream come true to know that it's coming out on May 31st, Voices of My Family.
This story is brought to you in partnership with the Local Journalism Initiative of Canada.
You're on the air with Viewpoints.
Follow us on X at Frequency News. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
More helicopters, trucks, planes, and personnel will help BC Wildfire Services members battle forest fires across the region this season. Northwest Fire Center's Information Officer Morgan Blois said that many crews are already training. According to BCWS, there are more than 150 fire crews stationed in the Northwest region, with more to come as the season progresses. Dan Messick and Smithers spoke with Information Officer Morgan Blois.
We are seeing, a bit of a early start to our spring season. Typically up here, we see kind of two parts to our fire season. Right now, we're in that spring grass fire season. Then we go into a bit of a lull, typically before hitting that summertime wildfire, big forest fire season. As for what we're looking at right now, we do have a holdover fire in our Nabina fire zone that was a fire from last summer that's kind of burned throughout the winter and has popped up with some heat now again this spring. And then we have had another incident, just a small under a hectare size wildfire as well. So yeah, seeing those early season conditions kind of bring a lot more activity than we're typically used to at this time in the year. We do have crews coming back right now. We have probably about 50% of our crews back, and we'll see them come back again in April, and then our last intake will be at the start of May. By then, we should have all our staff back and ready for the season. Outside of that, we're just doing infrared scanning. We're doing patrolling, monitoring these fires so that we're not seeing elevated activity on them throughout the rest of the spring, hopefully.
If there are active fires before then, because obviously it looks like we're still in a drought and it seems pretty dry out there, what happens if not all resources are in place? What kind of mechanisms in place?
We do have crews back, as well as aircraft and heavy machinery is all being onboarded right now. So I would say we are prepared to react to any activity that we do see. Obviously, depending on resourcing, it will be very similar to how we manage that in the summertime, going through our priorities and kind of prioritizing which fires need to be responded to and which ones can wait, or maybe bringing in outside resources from the region and borrowing from other parts of the province in order to respond correctly to those incidents.
Every year seems to be getting a little bit more intense. What's different about this year? What other new resources are being put into place?
We have been seeing a trend in the last year or so of activity kind of increasing summer to summer. And from last season, we did struggle with resources and not having enough people to respond to every incident we saw across the province. So this past fall and winter, our provincial staff have really prioritized our onboarding and hiring process. So yeah, we did have way more applicants this winter, and hopefully that will end up with filling more positions. And there are constantly, in the last couple of years, more positions being added to each center. For the Northwest Fire Center, I'm not particularly sure on exact numbers at this point, but I do know every base has got increased numbers for crews and how many people that they're able to look after this summer. And yeah, hopefully our staffing issue will improve throughout the spring and summer this year.
Obviously, throughout the summer, people like to have campfires. If folks are thinking of having a fire this summer, where can they find out if there are fire bans in their area?
Yeah, this year we are introducing a brand new app and update to our website. So hoping to make it a bit more user-friendly and add a lot more information for the public to find. So in terms of figuring out what prohibitions are in place in your region or your area specifically, going to bcwildfire.ca is the best way to figure that out. Currently for the Northwest, the Bulkley and Nadina fire zones will have a Category 2 and Category 3 prohibition in place starting on Thursday, March 28th. So keeping that in mind. On top of that, making sure to be diligent with putting out your campfires in the next few days, making sure all of your pile burning is put out and not smoldering anymore past Thursday at noon. And then in terms of going into the spring, it's really important and we really rely on the public's help in terms of reporting wildfires. So being diligent in, yeah, if you see unattended campfires, any smoke or anything that's maybe giving you the idea that there is fire in the area, making sure just to call that in, reporting it through the app or, yeah, sending photos in to kind of get that on our radar, because sometimes we don't always know and we, yeah, rely on people in their area to be notifying us of what's going on.
Thanks to Dan Messick.
Avakumova in beautiful British Columbia, and you are tuned to Viewpoints.
And we stay in BC, where the city of Nelson has been working to find its official bird. A few days ago at Nelson City Council meeting, the black-capped chickadee won the vote and could soon become Nelson City bird. The idea originates from Nelson resident Elizabeth Cunningham, who convinced the council to move forward with the project of becoming a bird-friendly city. Choosing a city bird is one of several steps in becoming a Nature Canada bird-friendly city. This is a project Cunningham has been working on for more than a year. She first presented it to the council in May of 2023. According to Nature Canada, a bird-friendly city mitigates key threats to birds and restores nature. The city of Nelson has yet to vote on adopting the black-capped chickadee as an official bird, but they are expected to do so at a later meeting. In Kootenay, BC, here's Scott Onishak.
At Nelson City Council Committee of the Whole meeting on Tuesday night, Elizabeth Cunningham presented community feedback on which bird has been voted to be the city bird of Nelson. Choosing a city bird is one of many steps to becoming a Nature Canada bird-friendly city. Here's Cunningham speaking on which bird received the most votes.
Through the nomination process, 25 species were chosen by 81 Nelson participants. In third place, the northern flicker. The osprey and Steller's jay tied for second place. The black-capped chickadee was the most popular choice.
This is a project Cunningham has been working on for over a year. She first presented the idea to City Council in May of 2023, receiving their support. At the meeting last night, she also explained what it means to be a Nature Canada bird-friendly city.
A bird-friendly city is a community where key threats to birds are effectively mitigated. Nature is restored so native bird populations can thrive. Residents are actively engaged in admiring and monitoring local bird populations. Organizations are creating events to protect birds. Progressive municipal policies are created to protect urban bird populations, and a bird team has been created to oversee and lead these initiatives.
Council has yet to vote on officially adopting the black-capped chickadee as the city bird. They're expected to do so at a later date. If Nelson continues to work on becoming a Nature Canada bird-friendly city, they'll be the fourth city in BC to receive the certification, joining Vancouver, Saanich, and Lions Bay. They will also be the first city in BC's interior to be certified. Cunningham, who is also a published poet, with books available at the Nelson Library and for purchase at the Notably Bookstore, read a poem about the chickadee before council as well.
It is winter and you're gazing out the window. There are shivers of ice on bare branches. The pale sun peers with uncertainty through the stiff trees where the chickadees peek and chatter.
If you're interested in joining the bird team to help Nelson become a bird-friendly city, you can email Cunningham at nelsoncitybird@gmail.com. And for more information on the program, visit naturecanada.ca.
You're tuned to Viewpoints, local news nationwide.
Sometimes the simplest ideas go a long way. For the first time, people with mobility issues and those requiring wheelchairs will be able to safely access the Wellington Rotary Beach on Lake Ontario. The beach is getting an accessible beach mat and two specially designed floatable wheelchairs thanks to the Rotary Club of Wellington and Prince Edward County. With the special wheelchairs, people can be wheeled up and down the beach and even be taken into the water because the wheelchairs float. Rotary President Lynn McGowan presented council with the plan, which was unanimously approved. The project has been in the works since 2022, originally consisting of a modest design costing $10,000 to be financed by Wellington and area Rotary clubs and a grant from the Rotary District. But then an anonymous corporate sponsor donated $42,000, allowing the project to expand to include two special chairs and a double mat for a total cost of $52,000. Here's Brenda Little in Picton, Ontario.
Wellington Beach is a busy place in the summer, enjoyed by locals and visitors from far and wide. With the installation of the specially designed accessible wheelchair and the mat to get down to the water, the beach will be accessible to everyone. The Rotary Club of Wellington has been working with Councillor Engelsdorfer for the past year to work out the details of responsibility and legalities, and it all came together last night when Council unanimously approved the project. A shed will be constructed to store the mat in the off-season. Chairs can be reserved through the county upon request, with signage being installed on the beach giving full information. Some councillors were concerned the winds of Wellington will blow the sand onto the mat, making access difficult, but they were assured that the beach steward will manage it. All other upkeep will be factored into future municipal budgets. Councillors commended the Rotary members for their initiative and look forward to the grand opening May 9th. For the Local Journalism Initiative, frequencynews.ca, I'm Brenda Little.
That's it for us at Viewpoints. Thanks to Brenda Little, Scott Anishak, Sabrina Spencer, Derek Bullard, and Dan Messick. To both our national editors, Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada with the precious help of your local radio station. I'm your host and producer, Boris Chassaigne. Thanks for being with us this week. And until the next, ciao.
Hey, yo, this is the narcissist, the Euphrates Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Salut et bienvenue à Point de vue. Je m'appelle Boris Chassagne et je serai avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, Naheed Nenshi rejoint la course à la chefferie du NPD albertain qui va se conclure le 22 juin. L'ancien maire de Calgary pourrait se mesurer en 2027 à l'actuelle première ministre conservatrice Danielle Smith.
Il y a des crises pendant le monde qui va changer notre civilisation. Et c'est un temps absolument qu'il faut avoir un gouvernement qui est très intelligent. Et maintenant, je crois que nous n'avons pas un gouvernement qui fait ça. Nous avons vraiment un gouvernement qui est dangereux.
La poétesse et militante Laura Doyle-Payant se produira à Halifax à l'occasion du festival Mayworks en Nouvelle-Écosse. On ira la rejoindre au Québec. Roger Arsenault était l'ami de l'Acadie de sa jeunesse, aussi le père fondateur des Jeux de l'Acadie en Nouvelle-Écosse. Il nous a quittés le 13 avril dernier. Daniel Aucoin se souvient de lui en compagnie d'un vieil ami.
Un bonhomme qui donnait confiance au monde qui l'entourait pour faire des grands projets. C'était un bâtisseur, puis ce fut un pionnier aussi.
Et le sirop d'érable coulait à flot ce printemps au Nouveau-Brunswick. Les acériculteurs se sont sucrés le bec et ils en sont ravis.
Notre record était de 821 000 gallons de sirop. Selon moi, on va dépasser le million là, cette année-là. Ça devrait être une année record pour le Nouveau-Brunswick.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci de nous tenir compagnie. Comme la semaine dernière, on verse dans la culture pour lancer l'émission avant de plonger dans la sphère politique sportive. Il y a Séricole. Premier arrêt en Nouvelle-Écosse où la poète et militante originaire de Montréal, Laura Doyle-Payant, inaugurera le festival Mayworks d'Halifax. Elle se produira au Bus Stop Theatre. Le festival Mayworks démarre en fait dans quelques jours, soit du 1er au 12 mai. L'auteur y proposera une poésie illustrée, mise en scène par l'artiste Trisha Robinson. Sa performance bilingue portera sur l'invisibilisation du travail, notamment celui des femmes. Elle est au micro de Julia Chenu à Halifax.
Bonjour, Laura Doyle-Payant, notre invitée aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va bien, merci de me recevoir.
Bien, merci à toi d'être là, c'est vraiment, ça fait toujours très plaisir. Alors, tu es poète militante haïtienne québécoise et puis tu fais de la poésie à la fois en anglais et en français. Comment est-ce que tu es tombée dans ce goût des mots et de l'écriture?
C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'était à la fois un fruit du hasard et le chemin tracé. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un environnement où la littérature était omniprésente. Mon père travaille également comme écrivain. Ma mère est enseignante, donc il y avait toujours des livres à la maison. Ma mère m'amenait à la bibliothèque municipale plusieurs fois par semaine. Et donc, c'est un univers, autant la lecture que l'écriture, qui a été présent dès un très jeune âge pour moi. La poésie, c'est arrivé plus sur le tard, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup en écrire, mais j'en écrivais que pour des devoirs à l'école, des projets en cours de français. Et je ne me donnais pas la permission d'en écrire jusqu'à temps que je découvre les scènes de micro ouvert. C'est vraiment là... autour de 2017, quand j'ai commencé à fréquenter ces scènes-là, je me suis rendu compte que c'est une forme d'art qui peut appartenir à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de formation, qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous donne une permission autre que soi-même pour vraiment se permettre d'écrire de la poésie. Et ça a été le coup de foudre à partir de ce moment-là.
Continuons sur la poésie. Où en sont tes projets d'écriture actuellement?
Oui, en ce moment, je travaille sur deux manuscrits qui vont paraître probablement dans la prochaine année et demie. Donc, j'ai un roman jeunesse qui va paraître cet été, en fait, aux éditions Kata. C'est un roman qui parle de la crise climatique ainsi que de l'importance de l'engagement collectif pour créer des changements dans sa communauté. Et mon deuxième projet, c'est un projet en poésie, projet de poésie pour ados qui se déroule dans le milieu du cheerleading. J'en dirai pas plus. Je sais pas à quel point mon éditrice veut que je garde des secrets.
On en dit
pas
plus.
Très, très, très hâte de lancer ce livre-là. C'est un manuscrit qui m'a accompagnée pendant plusieurs années. Mon éditrice a été très patiente et qui vient vraiment rejoindre plusieurs facettes de ma vie. C'est-à-dire que j'ai évolué dans le milieu du sport étudiant pendant longtemps et ça vient rejoindre mon engagement, ça vient rejoindre certains souvenirs, certaines questions politiques très essentielles puis très présentes dans le discours actuel en termes d'inclusivité, en termes de violence systémique, en termes de contrôle du corps des personnes queer, surtout des jeunes queer. Donc, toutes ces questions-là sont présentes au cours du recueil. Puis, j'aurai la chance de présenter en exclusivité certains des textes du recueil lors du spectacle à Halifax. Donc, j'ai bien hâte.
Eh bien, on va en parler justement de ce festival, le Mayworks Festival à Halifax, qui se concentre beaucoup sur le travail, les droits du travail. Et donc, c'est un sujet sur lequel toi, tu as écrit sur le travail invisible des femmes. Comment est-ce que tu voudrais susciter une prise de conscience de ce travail invisible?
Bien, c'est un peu de là que l'idée du spectacle est partie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles qui s'écrivent sur la question. Il y a des magnifiques essais aussi, si les gens veulent aller se renseigner. Nous, on se demandait, en fait, le spectacle, je ne le fais pas toute seule, je le fais avec mon amie Trisha Robinson. Comment venir visibiliser des formes de travail qui sont souvent ignorées ou sont criminalisées ou sont pas appréciées à leur juste valeur? Et donc, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec le spectacle en les mettant sur scène, donc en faisant le spectacle lui-même et en venant honorer les personnes qui font ces formes de travail-là, en les démontrant. Et donc, c'est un peu ça le souhait. On espère que ça puisse ouvrir certaines réflexions au sein du milieu syndical. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de lutte sociale, de lutte syndicale dans le spectacle, mais on parle aussi de certaines dynamiques de pouvoir qui peuvent s'exercer au sein des groupes syndicaux, dynamiques qu'on a nous-mêmes vécues. En fait, Trisha et moi, on s'est rencontrés en organisant avec le même syndicat. Trisha travaillait pour le syndicat, moi j'étais membre du syndicat, puis j'ai ensuite siégé sur leur conseil. De venir visibiliser certaines dynamiques pour créer des réflexions vraiment, puis nous amener à avoir des mouvements qui sont le plus intersectionnels possible et qui prennent soin de tout le monde au sein du mouvement.
Est-ce que l'invisibilisation du travail des femmes est toujours aussi présente dans nos sociétés dites modernes? Donc là, je parle vraiment du Canada, États-Unis, des pays européens de manière générale. Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'il y a eu de plus en plus de discours d'après ce que j'ai vu, là, peut-être, c'est pas une étude sociologique, mais dans les 5-10 dernières années sur la question du travail émotionnel, du travail du soin, de la charge mentale, la charge raciale également. Mais je dirais que la plupart de ces discours-là, justement, ont une portée qui est importante, qui apporte quelque chose de très, très important au discours, mais qui souvent vont laisser de côté les différentes identités que les femmes peuvent porter, c'est-à-dire que ces charges-là ne seront pas les mêmes pour les femmes racisées, pour les femmes qui vivent avec en situation de handicap, pour les femmes qui sont en situation de pauvreté. Et donc, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec le spectacle, c'est de venir tisser des liens qui ont été tissés par tellement d'autres personnes avant nous. Mais c'est un peu ça notre intention, de d'élargir la vision qu'on a des mouvements féministes, de ce que notre féministe devrait être, ce qu'il devrait contenir, puis de ce que nos luttes syndicales devraient contenir également.
Cette année, le festival arrive à Halifax pour une 16e édition et c'est la première fois qu'il y a une programmation en français. Qu'est-ce qui t'a encouragée à participer à ce festival?
C'est vraiment arrivé par hasard, je devrais dire. J'ai vu l'appel de proposition du festival, je crois que c'était en octobre, 5 jours avant la date limite. Et ça m'a tout de suite fait penser à Trisha Robinson, avec qui le spectacle se crée en ce moment, parce que sa pratique artistique est vraiment centrée sur les droits des travailleurs, des travailleuses, sur les luttes sociales. Donc, je lui ai envoyé, j'ai dit, j'ai pensé à toi tout de suite, ce festival-là a été créé pour toi. Et on s'est mis à imaginer ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire une proposition qui viendrait rejoindre les différents médiums avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans la poésie, la performance. Trisha est une artiste de multiples talents. Elle fait beaucoup d'art visuel, de la broderie, des illustrations. la sculpture, qui a fait du stand-up comic il y a quelques années, qui chante. Et donc, ça a vraiment été un plaisir. Et aussi, on a monté une proposition super rapidement parce que la date limite arrivait. C'était pas un festival qu'on connaissait avant ça, avant la publication sur Instagram. Et finalement, un grand privilège là, d'être en ouverture de ce festival, d'avoir la confiance de l'équipe. Sébastien qui a été vraiment d'une aide infinie, d'un soutien infini pour tout ce qui est logistique également autour du spectacle, la venue à Halifax. On ne pourrait pas être plus reconnaissante de cette invitation-là, de cette confiance.
Bien, merci beaucoup, Laura Doypéan, pour cette belle entrevue. Et on va encourager les auditeurs et auditrices à venir te voir. Donc, c'est le 1er mai à 19h au Bus Stop Théâtre de Halifax pour donc une double interprétation, un spectacle à deux en tout cas. On peut le dire comme ça ?
Exactement.
C'était Julia Chenut à Halifax, membre du réseau IGN.
Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca.
L'ancien maire de Calgary se porte candidat à la chefferie du NPD en Alberta et devient illico le favori dans cette course qui culmine en juin 2024. Nahid Nenshi souhaite ainsi passer de la sphère municipale qu'il a quittée en 2021 pour se lancer dans la politique provinciale. Lui qui ne veut pas rester les bras croisés face à un gouvernement qu'il qualifie d'incompétent. Nenshi qui se propose de construire un meilleur avenir pour l'Alberta, pour tous les Albertains, dit-il. Nahid Nenshi a déposé sa candidature à quelques jours de la date limite et, ce faisant, a immédiatement changé la dynamique de la course. Les autres candidats devront s'adapter à sa présence. Parmi eux, Sarah Hoffman, Kathleen Ganley, Raki Pankoli, Gil McGowan et Jody Callahoo-Stonehouse. Le nom de la ou du nouveau chef du NPD sera connu le 22 juin. L'un ou l'une d'elles siégera dans l'opposition face au gouvernement conservateur de Daniel Smith. Smith, élu 19e première ministre de l'Alberta en mai 2023, encore 3 ans devant elle. Les prochaines élections provinciales albertaines devraient se tenir, si tout se passe comme prévu, en mai 2027. L'ex-chef du NPD, Rachel Notley, a annoncé en janvier 2024 qu'elle quitterait ses fonctions dès que remplaçant lui serait trouvé. Et Nahid Nenshi cherche à être l'heureux élu. Élie Nkoulou à Edmonton en Alberta l'a eu au bout du fil. On s'excuse pour la qualité de la communication.
Bienvenue, Monsieur Nenshi.
Merci. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Et ça me fait grand plaisir de partager un peu de temps avec notre communauté francophone aujourd'hui. Now, il me faut dire que je suis un peu nerveux parce qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup longtemps que j'ai fait une interview en français.
Pour vous rassurer, votre français est déjà parfait.
Oh non, je comprends bien que je parle français comme cowboy. J'ai appris mon français ici en Alberta à l'école, mais j'essaie parce que pour moi, c'est important. L'histoire de notre province, notre pays, est une histoire francophone. Il y avait des gens qui parlent français ici depuis toute l'histoire non pas autochtone de notre pays. Et pour moi, c'est important de comprendre, essayer de parler en français parce que c'est une chose importante pour notre histoire, mais c'est une chose vraiment importante pour aujourd'hui et pour l'avenir.
Quelles sont les priorités de votre campagne électorale et comment allez-vous mobiliser les Albertains autour de ces enjeux?
C'est un point d'histoire maintenant qui est très fragile, qui est très important. Il y a des crises pendant le monde qui va changer notre civilisation. Et c'est un temps absolument qu'il faut avoir un gouvernement qui est très intelligent, capable d'une chose très éthique. Et maintenant, je crois que nous n'avons pas un gouvernement qui fait ça. Nous avons vraiment un gouvernement qui est dangereux. Et donc, c'est un moment pour tout le monde d'avoir une pensée qu'il faut bâtir pour un meilleur futur et pour nos enfants et nos grands-enfants. Et pour moi, c'est très important d'entrer, de réentrer pour moi, le monde politique, parce qu'il faut avoir un mieux gouvernement. We have a government that is like nothing I've ever seen before, one that just is not interested in governing now. Donc pour moi, c'est important de rentrer l'arena pour dire qu'il faut avoir un mieux Alberta, vraiment.
Dites-moi, quels sont les principaux défis que vous comptez relever en tant que candidat à la direction du Parti néo-démocrate de l'Alberta?
Quand on parle avec les Albertains, et j'ai parlé avec des Albertains partout de province, de High Level à High River, et tous les Albertains ont dit les mêmes choses. On doit avoir les services publics, on doit avoir une économie, on doit bâtir les changements du climat et prendre notre position comme leader dans le battle contre le changement climatique. Donc, toutes les choses comme ça sont les choses que les Albertains partagent, that all of us agree that these are the sorts of things we need to do. Mais c'est difficile d'avoir la conversation maintenant parce que les temps sont si divisés. We're so living in such divided times. C'est difficile d'avoir les conversations avec nos voisins. Et donc, pour moi, c'est important d'inviter tous les Albertains dans la conversation de bâtir un mieux Alberta. Maintenant, le discours politique, beaucoup de nous doivent être contre les autres, contre Ottawa, contre le premier ministre, entre nos voisins. Et c'est une occasion pour nous de dire ce que nous sommes pour Alberta, pour tout le monde. C'est mon slogan de campagne. Mais c'est important pour moi d'avoir toutes les conversations avec les Albertains. What are we for? Qu'est-ce que nous sommes pour? Et ça, c'est le plus important. Pour moi, c'est magnifique. Il y a des mille et mille et mille d'Albertains qui ont dit « We need something better. » On doit avoir quelque chose de mieux.
Comment distinguez-vous vos opinions politiques de celles du gouvernement actuel et des autres candidats qui souhaitent diriger le parti néo-démocrate?
Vous savez, je connais Daniel Smith depuis 30 ans. Nous étions étudiants à l'Université de Calgary ensemble. Et nous avons suivi un cours particulier. Le professeur était un homme qui s'appelait Peter Lougheed. Et le Daniel Smith avec qui je suis grandi, il n'est pas le premier d'Alberta maintenant. C'est quelque chose de complètement différent. Et il y a beaucoup de différences parce que Premier Smith et son UCP n'est pas vraiment un gouvernement. C'est un parti politique et pour moi, c'est complètement différent. J'étais maire de Calgary depuis 11 ans. J'ai beaucoup d'expérience dans le monde d'entreprise. J'étais professeur à Mount Royal University et aussi à l'Université de Calgary. J'ai l'expérience pour faire des changements que les Albertans veulent, mais aussi d'expérience de gouverner, de gouvernement. Et pour moi, ça, c'est la même différence.
En abordant l'aspect de la francophonie, avez-vous une politique francophone dans votre programme ou plateforme électorale?
J'ai pas beaucoup de politiques à détail dans mon plateforme maintenant. Et c'est parce que je connais que maintenant, je vais être chef de l'opposition, pas le premier. Et il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de changements pendant les trois années subséquentes. Et je veux créer les politiques, la plateforme avec tous les membres, avec tous les Albertains.
Merci, Nahid Neshi. Bonne chance dans votre campagne.
Merci.
Eline Koulou, journaliste pour EJL.
Vous écoutez Point de vue.
On fait un petit crush au Bernier maritime, si vous le voulez bien, et l'Acadie en particulier, qui vient de perdre une de ses figures de proue. Roger Arsenault, enseignant et directeur d'école, entraîneur et organisateur d'événements, est décédé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, à l'âge de 76 ans. Roger Arsenault aura laissé sa marque en Nouvelle-Écosse par le rôle qu'il a joué, notamment au Conseil scolaire acadien provincial, mais aussi aux Jeux de l'Acadie. Sa carrière entière a été vouée à l'enseignement de l'éducation physique des jeunes. Son destin l'a ramené à Dartmouth, où il a occupé la fonction de surintendant du Conseil d'école du Grand Havre. Son dévouement pour le développement de l'activité sportive chez les jeunes Acadiens l'a ramené à être l'un des fondateurs des Jeux de l'Acadie. Il sera en fait le pivot de la première grande finale des Jeux de l'Acadie en Nouvelle-Écosse en 2008. Il a reçu son adoubement de la Société nationale de l'Acadie pour son implication auprès des jeunes. Jean-Guy Deveau, l'ancien président du comité provincial des Jeux de l'Acadie en Nouvelle-Écosse, parle de Roger Arsenault avec Daniel Aucoin à Chéticamp, Nouvelle-Écosse.
Bonjour Jean-Guy.
Bonjour Daniel.
C'est quoi le souvenir que toi tu retiens de Roger Arsenault?
Alors moi, je retiens de Roger que c'était un bonhomme qui était toujours de bonne humeur, un bonhomme qui donnait confiance au monde qui l'entourait pour faire des grands projets. C'était un bâtisseur, puis pour plusieurs
disons, institution de la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse, ce fut un pionnier aussi qui aida d'autres bénévoles de la Nouvelle-Écosse à travailler avec lui pour produire, disons, l'Acadie qu'on connaît ici maintenant en Nouvelle-Écosse.
On peut dire que Roger Arsenault, il savait comment rallier les gens, il savait comment sortir le meilleur de tous ces gens-là?
Oui, oui, il savait, il comprenait que même si il y avait certaines hésitations, que si on pouvait donner confiance, qu'on pouvait faire de grandes choses. Comme un exemple de ça, c'était Roger a déménagé avec sa famille de Tracadie en 1991 pour assumer la direction du conseil d'école et du conseil communautaire, le tout nouveau carrefour du Grand Havre qui venait de se construire à Dartmouth. Tout de suite qu'il arrive en fonction, lui qui était un pionnier des Jeux de l'Acadie, il a dit on peut tenir les Jeux de l'Acadie à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Il a poussé les bénévoles de la région à embarquer dans ce projet-là. Puis l'année suivante, en 1992, on tenait les Jeux régionaux pour une première fois à Dartmouth et Halifax, et puis ça fut un succès. Et puis ça fut un élément de fierté pour la communauté qui commençait à prendre, à réaliser que on pouvait faire des belles choses si on travaillait ensemble.
Il faut dire aussi que Roger a travaillé très fort pour amener, pour la première fois, une grande finale des Jeux de l'Acadie à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Il avait travaillé pour amener la grande finale en Nouvelle-Écosse.
Oui. Je crois que Roger Arsenault portait un tatou des Jeux de l'Acadie sur son corps parce qu'il voyait les Jeux de l'Acadie comme une possibilité de ralliement, une source de fierté, puis disons un exemple de savoir-faire, qu'est-ce que les Acadiens pouvaient faire s'ils travaillaient ensemble. Ça fait qu'en 2008, il a rassemblé un comité organisateur avec plus de 800 bénévoles. Il a trouvé de l'aide à d'autres régions de la Nouvelle-Écosse et même du Nouveau-Brunswick pour donner un coup de main. Et puis on a réussi à tenir la première grande finale des Jeux d'Acadie en Nouvelle-Écosse, et ce fut à Halifax Dartmouth.
Jean-Guy Desbeaux, merci beaucoup.
OK. Merci d'avoir pris ce temps pour donner un hommage à Roger. Il le mérite très bien.
Salut.
Ici Raphaël Hensley-Vincent, à Tête à la baleine. Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Et on conclut l'émission se sucrant le bec, toujours dans l'est du pays où la saison de la récolte du sirop d'érable s'achève, notamment dans la région d'Edmundston. Les acériculteurs de la région sont loin d'avoir la mine basse. Ça, c'est parce que la saison des sucres a débuté plus tôt qu'à l'habitude et les rendements et la qualité du sirop sont au rendez-vous cette année, de quoi faire oublier les désastres, semble-t-il, de la saison dernière. Monsieur Éric Caron, copropriétaire de l'érablière Sylvasserre, a le sourire au lève M. Caron, qui vient d'ailleurs de battre son record de production personnelle le lundi 22 avril dernier. Et quand il parle dans le reportage que vous allez écouter de livres de sirop, dans son langage d'acériculteur, il parle de livres de sirop par entaille et non pas par arbre, qui peuvent, eux, compter plusieurs entailles. Caroline Lavertu à Edmundston au Nouveau-Brunswick est avec lui.
La saison de la récolte du sirop d'érable s'achève dans la région et on peut déjà parler d'une excellente année, autant au niveau du rendement que pour la qualité du sirop récolté. Cette année, la saison des sucres a débuté au début du mois de mars, une situation plutôt inhabituelle pour la région d'Edmundston. Éric Caron, copropriétaire de Sylvasserre, une érablière de 80 000 entailles biologiques située à Saint-Joseph de Madawaska.
On a eu des bonnes coulées au mois de mars. Actuellement, nous, on commence à faire du sirop fin mars, début avril. Puis cette année, c'est un petit peu bizarre, mais on a fait 3 livres de bons de sirop en mars. Fait que ça a vraiment bien parti la saison des sucres là, pour nous. Là.
Est-ce qu'on peut parler d'une année record pour le Nouveau-Brunswick?
Au Nouveau-Brunswick, notre record était de 821 000 gallons de sirop. Puis là, nous, on s'attend que, quand je parle
à l'association agricole du Nouveau-Brunswick puis à certaines des producteurs dans le Nord-Ouest. Selon moi, on va dépasser le million là, cette année-là. Ça devrait être une année record pour le Nouveau-Brunswick. Mais comme pour chez Sylvasserre, nous, notre record de 2017 n'est pas encore battu. On a déjà fait 6,51 livres, puis il nous manque environ 100, un petit peu moins que 100 barils là, pour atteindre ce record. Là, puis on suit ça, là, on va essayer de battre ce record-là, certainement.
Une situation bien différente par rapport à la saison dernière.
Oui, l'année passée, ça a été une saison désastreuse. Désastreuse aussi au niveau de la qualité du sirop. Parce que l'année passée, nous, on avait fait 3,4 livres environ. Mais là-dessus, il y avait presque 38 % de notre sirop qui était du sirop de fin de saison. Puis cette année, nous, on a un petit peu plus que 5 livres de bon sirop. Donc ça, c'est vraiment bon pour l'industrie agricole du Nouveau-Brunswick. Puis en plus de ça, c'est qu'on on a eu un bon prix cette année pour notre sirop, étant donné que la banque de la Fédération au Québec était pratiquement vide en début de saison. Donc, on a eu du bon sirop doré, puis à bon prix aussi. Ça fait que ça aide vraiment l'industrie du Nouveau-Brunswick. Là.
On se rappellera que les producteurs de sirop d'érable du Nouveau-Brunswick ont obtenu 5000 hectares de terres de la couronne supplémentaire. Les acériculteurs avaient jusqu'au 2 avril pour déposer une soumission. Des réponses devraient leur parvenir cet été. Pour Éric Caron, l'excellente saison tombe à point.
Ça tombe à pic une bonne saison parce que ça nous donne des capitaux nécessaires pour faire l'installation. Puis, vu que l'intérêt est assez élevé, si on a une bonne saison, on va débourser moins d'argent pour faire ces entailles-là.
Les terres de la couronne disponibles pour de nouveaux aménagements comprendront des secteurs dominés par l'érable à l'extérieur des zones développées préexistantes dans le Nord-Ouest.
La province préfère avoir des entailles en dehors du Nord-Ouest pour justement diversifier un petit peu le nombre d'entailles par région. Ce qui n'est pas mauvais de point de vue de mon point de vue de forestier, là, parce que si jamais qu'il y a des maladies, si qu'il y a la météo des fois est pas pareille dans le Nord-Ouest et dans le Sud, ça peut être bon pour diversifier vraiment la saison des sucres là, dans toute la province.
Dans la région, il pourrait y avoir encore quelques jours de coulée pour le sirop de fin de saison, principalement pour les plus gros producteurs.
Voilà, c'est tout pour nous. On remercie nos journalistes Caroline Lavertu, Élie Nkoulou, Daniel Aucoin et Julia Chenu. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne avec vous à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là. Restez à l'écoute de l'émission qui suit et à la semaine prochaine, on l'espère. Ciao.